France Info.
Pour le sud-ouest, et la neige tombe, mais cette fois elle est bien rangée, elle est en montagne, cette neige
rangée.
À partir de 800 mètres d'altitude, on aime la neige mais en
les
montagne.
Flocons, à part. Okay.
110 mètres d'altitude pour les Pyrénées, non 1100 mètres d'altitude, je dis n'importe
c'est
quoi.
C'est moins bien rangé.
Pour les Pyrénées, non mais c'est très bien. Le vent est également fort en Méditerranée, hein, surtout entre la Côte d'Azur et la Corse, on parle des températures, le redoux, c'est pour tout le monde cette fois, on en parle tout à l'heure.
Voilà, et vous rangez votre neige entre temps. Merci Christine oui. Peignard. Vous écoutez France Info, il est 5h. Des pointes à plus de 200 km/h après la Manche, la tempête Goretti continue de traverser le nord de la France. On fait le point dans un instant. La France votera contre l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Emmanuel Macron l'a confirmé hier, ce qui ne suffira pas à bloquer le traité de libre-échange, toujours sur fond de colère agricole. L'heure du deuil et du recueillement en Suisse après le drame du Nouvel An. Une minute de silence aujourd'hui en hommage aux 40 morts et aux 116 blessés et une cérémonie dans la région de Grand Montana en présence notamment d'Emmanuel Macron. Et le football, un titre de plus pour le PSG, le 7e en à peine plus d'un an. Le trophée des champions arraché au tir au but face à l'OM hier soir au Koweït. Récit dans quelques minutes. La tempête Goretti s'abat sur la France depuis hier soir. Le département de la Manche est sorti cette nuit de la vigilance rouge pour les vents violents, mais une trentaine de départements restent en orange du nord-ouest jusqu'à l'Île-de-France, avec aussi sur le littoral des alertes pour vagues submersion. Bonjour Mélodie Pépin.
Bonjour.
Le pic de la tempête commence à passer, mais les rafales ce matin sont encore impressionnantes.
Avec des records enregistrés cette nuit, notamment dans la Manche, des vents à 213 km/h à Granville, 182 km/h à Barneville, 152 km/h à Cherbourg, et le spectacle des vagues qui débordent sur les jetées, des vagues de 10 mètres redoutées. Évidemment, il faut éviter de s'approcher pour prendre une photo. Prière de rester à l'abri, consigne des autorités. La préfecture de la Manche recense plus de 200 interventions de pompiers, essentiellement des chutes d'arbres, des inondations de caves, mais aucun blessé grave. La RN13 est fermée sur une portion à cause justement de ces chutes d'arbres dans le Calvados. Également, une ligne électrique de 20 000 volts est tombée au sol à Ranville.
Et justement, cette nuit, des milliers de coupures d'électricité.
50 000 foyers privés de courant dès 22h hier soir en France, essentiellement en Bretagne, dans les pays de la Loire, en Normandie, où un dispositif de crise est en place avec des renforts pour Enedis qui est sur le pont. Par précaution, écoles, collèges, lycées sont fermés aujourd'hui dans la Manche et en Seine-Maritime. Les trains ne circulent pas en Normandie, on le rappelle. Beaucoup de perturbations à prévoir également dans les Hauts-de-France, en Bretagne, en Île-de-France également, avec des débuts de services repoussés ce matin sur le réseau de transport. La région parisienne où on a enregistré des rafales à plus de 100 km/h dans le Val d'Oise.
Mélodie Pépin. Il est 5h03 sur fond de colère agricole et malgré des concessions de Bruxelles, Emmanuel Macron annonce que la France votera contre l'accord commercial avec le Mercosur, un choix qui de toute façon ne bloquera pas le traité. Début novembre au Brésil, Emmanuel Macron avait pourtant insisté sur des côtés positifs du texte, notamment pour la filière viticole. Les 27 qui doivent se prononcer aujourd'hui sur cet accord avant la signature prévue au début de la semaine prochaine entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Et après l'incursion parisienne d'hier sous la tour Eiffel, les agriculteurs restent mobilisés sur des routes et des ronds-points. Exemple à Bordeaux, des manifestants de la coordination rurale de Gironde ont installé leur tracteur dans une zone industrielle. Ils bloquent les deux ronds-points d'accès au dépôt de carburant. Une dizaine de manifestants sur chaque rond-point, bien décidés à rester sur place. Pour France Info, Elodie Touchet.
Réfugié sous l'un des deux barnums, Sébastien se réchauffe devant le feu lancé dans une brouette. L'éleveur de sauveterre de Guyenne a passé les fêtes sur l'A63 à Sestas. Il campe désormais devant le dépôt de carburant avec un espoir, obtenir enfin une réaction.
Que ça soit bloqué, qu'il n'y ait plus d'essence, qu'il n'y ait plus... pour essayer de faire réagir notre gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus d'agriculteurs en France. Pour pas qu'ils réagissent comme ça, c'est pas possible. Quoi.
Adeline est un soutien de la première heure, cette médocaine, qui est tout aussi désabusée que les agriculteurs.
Les décisions sont prises sur l'Europe, par l'Europe, pour l'Europe. Donc à partir de là, on subit.
Mais disons qu'on essaye de se battre pour ne pas perdre ce qu'on a.
Persuadé que l'union fait la force, Thomas, viticulteur à Kérac, vient de rejoindre le mouvement.
Ça peut faire bouger les choses, à force de continuer, quoi. C'est pas vraiment des aides qu'on veut, c'est vivre de notre métier, quoi.
Tenir le blocage envers et contre tout, c'est ce que répètent ces agriculteurs de la coordination rurale, dont Fabrice Lagueille est l'un des coprésidents.
S'il faut, on restera là. Si l'affrontement, c'est eux qui le mèneront, c'est pas nous.
La coordination rurale revendique depuis le début un mouvement pacifique.
Élodie Touchet d'ici Gironde pour France Info et dans quelques minutes à 5h10, l'avis du vice-président de la FNSEA, invité de France Info. Le chercheur français Laurent Vinatier, emprisonné en Russie depuis juin 2024, est rentré hier à Paris après avoir été libéré en échange de la libération et du retour en Russie d'un basketteur russe, Daniil Kazatkine, qui était réclamé par la justice américaine pour cybercriminalité. En décembre, le Kremlin avait fait savoir que Vladimir Poutine était prêt à parler à Emmanuel Macron, répondant à des déclarations du président français. Laurent Vinatier, qui est arrivé hier à la base militaire de Villacoublay, près de Paris, avant d'être accueilli au ministère des Affaires étrangères. En Suisse, lors du recueillement après le drame du Nouvel An, un hommage rendu dans tout le pays aujourd'hui aux 40 morts, dont 9 Français et 119 blessés de l'incendie d'un bar dans la station alpine de Crans Montana. Les autorités et les églises invitent la population a observé une minute de silence à 14h. Dans le même temps, une cérémonie commémorative doit se tenir à Martigny, dans la région de Crans Montana, où les conditions météo seront plus favorables. Cérémonie en présence notamment d'Emmanuel Macron. Et cette cérémonie que les habitants de Crans Montana pourront aussi suivre sur des écrans. Sur place, pour France Info, Julie-Marie Lecomte.
À 14h, la vie va se figer, les remontées mécaniques par exemple vont s'arrêter. Rodolphe ira quand même skier, cet habitué est arrivé lundi dans une station en état de sidération.
On est venu skier et rien d'autre. Quoi. On sortait les autres années, cette année on n'est pas sorti. On reste tranquillement à l'appartement. On sent que l'ambiance n'est pas la même et l'ambiance n'est pas à la fête.
Hier, cette jeune femme était à la messe, dite pour l'un de ses amis mort dans l'incendie. Tout à l'heure, elle se recueillera encore, elle parle d'un cocon qui a explosé.
On vit dans un autre monde, c'est une nouvelle ère entre guillemets où on vivra tous malheureusement dans le deuil de la station et dans le deuil des personnes qui sont parties. Ça va être dur, après on ne sait pas, on est une station touristique, on accueille des touristes tout le temps, toute l'année, on ne sait pas comment la vie va continuer.
Il y aura un avant et un après, dit Michel, en larmes dès qu'il parle du drame.
J'ai horreur de cette phrase dans les circonstances actuelles, mais on dit que la vie continue, je ne sais pas l'entendre cette phrase. Mais voilà, je suppose que nous reviendrons dans quelques mois. Je suppose qu'à ce moment-là, mon émotion sera passée. On espère quand même que ça va se calmer un peu.
Mais pour Michel, cette journée de deuil national est un moment nécessaire.
Julie-Marie Lecomte à Crans Montana pour France Info. Journée marquée aussi par la nouvelle audition par la justice suisse du couple de Français qui gérait le bar incendié, le Constellation. Que se passe-t-il avec les radars météo des Airbus A350 qui jouent des tours aux pilotes? Ces radars qui sont censés anticiper les turbulences, de plus en plus de pilotes s'inquiètent de dysfonctionnement pour ces avions long courrier qui relient par exemple Paris aux États-Unis ou au Japon. Les explications d'Yvan Planteil.
Ce sont les yeux de l'avion, ils servent en fait à détecter les orages qui peuvent endommager l'appareil. Il y en a dans absolument tous les avions, mais ce sont bien ceux de l'A350, construits par l'entreprise américaine Honeywell, qui dysfonctionnent, et ce depuis plus de 2 ans. Le problème, c'est qu'à une certaine distance, l'équivalent de 150 km de l'appareil, eh bien le radar peut totalement se tromper et afficher l'inverse de ce qui se passe dans le ciel. François Hamant est commandant de bord dans des A350 et membre du syndicat Alter.
Soit le radar mettait un écho très important sur une masse nuageuse plutôt restreinte, donc ça nous impose de faire des détours qui n'ont pas lieu d'être. L'autre risque, c'est de se retrouver dans des nuages qui peuvent se traduire par des turbulences fortes malgré tout dans l'avion.
À tel point qu'un avis de danger grave et imminent a été transmis à la direction d'Air France par la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Il peut y avoir aussi la concomitance entre cette difficulté logicielle à restituer une image fiable et les perturbations de signaux GPS qui sont brouillées par les pays en guerre ou en tension géopolitique. C'est le cumul des deux qui génère des choses préoccupantes.
Alors l'entreprise Honeywell a bien identifié la source du problème. Une nouvelle version du logiciel doit être équipée sur toute la flotte, mais il faudra attendre le milieu de l'année 2026.
Yvan Planteil, France Info, il est 5h09, le football avec un titre de plus pour le PSG. Les Parisiens ont remporté au Koweït hier soir le trophée des champions. Paris vainqueur mais malmené par l'Olympique de Marseille. Le PSG l'a finalement remporté au tir au but après avoir été mené 2-1 dans les tout derniers instants du match. Succès parisien au bout du suspense et soirée de football vécue au Koweït pour France Info par Xavier Monferrand.
Ce n'est certes pas le titre le plus ronflant de son palmarès, mais le PSG a montré qu'il le voulait, ce trophée des champions, même si c'est le 14e dans la vitrine du club. Paris n'a rien lâché jusqu'au bout du bout, en sourit le gardien Lucas Chevalier, impérial.
C'est clair que quand on voit le 2-1 et on voit Marseille qui sort des bancs, les gens se disent c'est fini. Et en fait, non, c'est pas fini. C'est jamais fini avec Paris, c'est incroyable. Et à la fin, c'est tellement bon. Cette équipe a quelque chose en plus.
Marseille pensait tenir là son premier trophée depuis 2012, mais Paris a été sans pitié avec l'OM et c'est cruel, reconnaît l'entraîneur espagnol du PSG, Luis Enrique.
Le football, c'est comme ça. Nous, on a été capables de continuer à lutter jusqu'à la dernière minute. Et en ce sens-là, je dois dire qu'on a montré ce que nous montrons habituellement chaque fois qu'il y a des problèmes. Et c'est un peu l'ADN de cette équipe.
Et la moisson est spectaculaire. Le PSG a remporté là son 7e titre en à peine plus d'un an.
Xavier Monferrand au Koweït pour France Info et à 5h10, la météo de ce vendredi avec Christine Peña. C'est la tempête ce matin, oui, Christine, sur le nord de la France. Mais ailleurs, le redoux s'impose.
Mais oui, partout en fait, il véhicule cette tempête, ce vent, un air beaucoup plus doux finalement. On n'a pas de gelée du tout, fini les moins 10, moins 15 degrés. Il fait même 6 degrés à Aurillac, 6 degrés à Lille ce matin, 9 du côté de Bastia, de Nice, mais de Tarbes, de Mulhouse également, 9 degrés, alors que vous avez été dans le gel permanent nuit et jour. Il fait même 12 degrés à Bordeaux. Mardi dernier, il faisait moins 7. C'est quand même une sacrée différence. On a de la pluie et effectivement, cette tempête-là qui va perdre de l'intensité au fil des heures. Goretti, cette tempête se dirige vers la Belgique.
Qui soufflait fort, hein, avec jusqu'à plus de 200 km/h dans la Manche cette nuit.
Exactement, et on est encore au-dessus des 100 km/h. Là, les rafales sont encore vraiment extrêmement venteuse et tempétueuse.
Christine Peña, et on se retrouve pour une nouvelle carte météo complète tout à l'heure, juste avant 5h30.
France Info, le week-end.
Bonjour, c'est Adrien Beck. Je suis ravi de vous retrouver tous les matins, du vendredi au dimanche.
Sur tous les terrains.
Avec nos reporters.
Les décryptages de nos experts.
Le 8:30 France Info.
Les informer.
Pour tout savoir, tout comprendre, dès votre réveil.
Du vendredi au dimanche, le matin, c'est Adrien Beck sur France Info.
Emmanuel Macron annonce que la France votera non à l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, accord qui est l'une des raisons de la colère agricole, ce qui ne rassure pas pour autant les agriculteurs. Dans un instant, la réaction de Luc Smesser, vice-président de la FNSEA, invité de France Info.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
La France confirme donc qu'elle votera non à l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Un accord d'un autre âge, négocié sur des bases trop anciennes, c'est ce qu'écrit Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Il se refuse à exposer des filières sensibles à une concurrence jugée déloyale par les agriculteurs français. Pour autant, ça ne suffira pas à bloquer le traité, d'où la réaction désabusée de Luc Smesser, vice-président de la FNSEA.
Enfin, le président est clair, mais c'est trop tard. Je crois qu'il est échec et mat en Europe. Notre président aujourd'hui a compris que ce traité va signer et que du coup, il nous achètera pas en votant non. Je pense que ça en dit long sur le poids de la France en Europe. Je pense que ça fait très très longtemps que ce n'est pas arrivé qu'on piétine comme ça la France. En tout cas, la France a perdu énormément de poids avec ce traité de Mercosur. Je pense que ça fait des mois, ça fait des années qu'on aurait dû réagir beaucoup plus fortement et qu'on voit bien qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'aller trouver des alliés puisque même l'Italie vient de nous lâcher. Et donc c'est grave parce que derrière c'est un président de la République qui n'a pas de vision pour son agriculture. Emmanuel Macron étant une nouvelle fois très affaibli.
Luc Smesser, le chef de l'État, dit pourtant que l'étape de la signature de l'accord ne constitue pas, je le cite, la fin de l'histoire. Je continuerai de me battre pour la pleine mise en œuvre concrète des engagements obtenus de la Commission européenne et pour protéger nos agriculteurs. Vous ne le croyez pas ?
En tout cas, il faudra aller au bout. Oui, il va falloir mettre des contrôles, mais c'est bien que c'est l'Union européenne qui le décidera, c'est pas la France tout seul. Donc on a besoin d'avoir des batteries de contrôle au port, partout, pour aller contrôler. Et il faudra aller contrôler dans les pays de ce Mercosur, en Brésil, en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, sur les méthodes de production, des méthodes qui datent de plus de 30 ans, qui n'ont rien à voir avec le côté durable de l'agriculture française. Et puis, en même temps, Emmanuel Macron, il doit savoir qu'aujourd'hui, on est déterminé. On ira à Strasbourg le 20 janvier prochain pour aller chercher l'ensemble des députés européens pour avoir la majorité pour bloquer ce traité du Mercosur. Si on a la majorité, on sera bloqué au moins pour 18 mois et tant mieux. C'est ce qu'on a besoin. On a aussi besoin que M. Sébastien Lecornu, dès demain, fasse des annonces très concrètes. On est à un moment de la bascule important pour savoir si on veut encore des agriculteurs demain. En tout cas, vous l'avez compris, on n'a pas envie de crever en silence.
Quelles annonces attendez-vous de la part du Premier ministre ?
On attend des choses très concrètes. C'est, on a eu la loi du plomb il y a 6 mois, il n'y a pas un décret de sortie, un décret sur l'eau, un décret sur les bâtiments d'élevage. Ça, c'est des éléments très concrets. Pour la viticulture, le plan de sauvegarde, est-ce qu'on le met en place, oui ou non ? Est-ce qu'on donne les moyens pour accompagner ce secteur viticole ? Je pense aussi aux grandes cultures, des secteurs qui sont en grande difficulté depuis 2 ans. Donc voilà, c'est ça, c'est des choses très concrètes. Sur la prédation, est-ce qu'enfin on va protéger les éleveurs plutôt que le loup ? Il y a plein de sujets comme ça. Est-ce que sur le dossier directive nitrate, ce qu'on a fait que empiler des normes, des choses qui sont complètement incohérentes ? En tout cas, nous on l'annonce, si le traité du Mercosur est signé, on ne veut plus un seul contrôle jusqu'au présidentiel, jusqu'en 2027. C'est-à-dire qu'on arrête d'embêter. Et si je veux parler avec du bon sens, qu'on arrête d'emmerder les agriculteurs sur le côté administratif.
Vous avez évoqué la mobilisation le 20 janvier prochain à Strasbourg pour faire pression sur les députés européens. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous, d'autres manifestations prévues d'ici là ?
Oui, parce qu'ils le voient bien, il y a de la provocation et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, s'il faut simplement monter à Paris pour faire la une et faire le buzz, je crois que c'est pas ce sujet. Le sujet, c'est de se dire aujourd'hui, on a derrière nous les Français, c'est important, on a quasiment 9 Français sur 10 qui nous soutiennent et donc les mobilisations vont continuer. On sait aussi que le match sera long, mais je peux vous dire qu'on est déterminé à gagner sur la durée et puis surtout ce qu'on veut, c'est que d'ici le salon de l'agriculture, on ait retrouvé des couleurs à notre agriculture.
Le vice-président de la FNSEA, Luc Smesser, il répondait sur France Info à Julien Langlais. Il est 5h17, c'est une journée nationale de deuil et une cérémonie d'hommage aux victimes aujourd'hui en Suisse après l'incendie dans un bar de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 119 blessés dans la nuit du Nouvel An. Une tragédie qui a poussé le préfet de police de Paris à accélérer les contrôles de sécurité dans les établissements de nuit parisiens. L'un de ces contrôles était mené hier dans un club de jazz du 5e arrondissement de la capitale et Benjamin Hilly y était pour France Info.
Donc c'est ouvert. Panneau, c'est interdit. On est bon.
Vérification des issues de secours en nombre suffisant. Les escaliers sont assez larges. La piste de danse se trouve au sous-sol. Capacité d'accueil de l'établissement, 200 personnes.
On va se diriger vers l'équipement d'alarme.
Donc là, c'est comme si la soirée battait son plein. Ils ont mis de la musique.
De quitter les lieux par les sorties les plus proches.
Le lieutenant-colonel Cédric Lemaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
On a eu une remise en lumière, l'arrêt du programme en cours, donc la sonorisation s'est arrêtée. Ça va sonner pendant 5 minutes. Tout est en ordre à ce stade, oui, tout à fait.
Vous étiez prévenu du contrôle ou c'est une surprise ?
On nous a prévenu hier après-midi, je crois.
C'est Dany, le propriétaire du club.
C'est un immeuble qui a à peu près 500 ans.
Ici, au plafond, pas de mousse anti-bruit.
Vieille pierre de Paris.
Vous avez réagi comment quand vous avez vu ce qui s'est passé à Crans-Montana ?
C'est une horreur, quoi. Nous, on est dans le métier depuis 56 ans et on fait très attention à tout cela. Il n'y a pas de fumigène allumé, il n'y a pas...
Le feu de Bengale, c'est pas pour vous ?
Le feu de Bengale, pas du tout. Non.
Un contrôle tous les 3 à 5 ans, selon les établissements. Ici, il se poursuit par une étude minutieuse du registre de sécurité et des documents techniques.
Rapport de vérification périodique des enfumages de 2023. Du coup, ça sera pas bon non plus, puisque on n'est pas à périodicité annuelle. On va regarder. Tac.
Mais est-ce qu'il va y avoir plus de visites désormais ou
Alors,
pas ?
Déjà, ce qui est prévu, le préfet de police a demandé à ce qu'on visite assez rapidement tous les établissements qui sont sous avis défavorable. Il y en a 7 à Paris, des discothèques qui sont sous avis défavorable.
Celle-ci en fait partie ?
Non, elle n'est pas du tout. Non,
Antoine Prime, architecte de sécurité de la préfecture de police.
Si le risque est très important, on peut être amené à fermer l'établissement. On peut faire le fermer le jour même. Admettons qu'il n'y ait pas d'éclairage de sécurité. Là, il y a un éclairage de sécurité. Admettons qu'il n'y ait pas d'éclairage de sécurité. L'établissement, le soir, il ne peut pas ouvrir.
À Paris, chaque année, 1700 contrôles sont menés pour 40 000 établissements recevant du public avec une dizaine de fermetures par an.
C'est une jolie musique.
Celle de la sécurité.
C'est plus sympa le soir avec l'orchestre.
Benjamin Illy dans ce club de jazz du 5e arrondissement de Paris pour France Info. Dans un instant, des explications sur la libération du chercheur français Laurent Vinatier qui était en prison en Russie sous l'accusation d'espionnage. On sera avec l'un des membres de son comité de soutien. D'abord, l'info en une minute.
France Info, 5h-6h.
L'essentiel de l'actualité à 5h20, c'est avec Diane Ferchit. Bonjour Diane.
Bonjour à tous.
Et le premier titre de ce vendredi, une rafale de vent à 213 km/h.
Enregistrée dans le département de la Manche cette nuit, selon la préfecture, en cause la tempête Goretti. La Manche qui n'est plus en vigilance rouge depuis cette nuit, mais en vigilance orange au vent violent, tout comme 32 autres départements du Nord à la Charente-Maritime, ainsi que les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Hier soir, 50 000 foyers se sont retrouvés privés d'électricité en Bretagne, dans les Pays de la Loire ainsi qu'en Normandie. C'est une joie infinie, un jour inoubliable, la réaction sur France Info de la fille du chercheur Laurent Vinatier, le chercheur libéré hier par la Russie où il avait été arrêté en juin 2024 et condamné à 3 ans de prison. Il a fait l'objet d'un échange avec un basketteur russe. Une minute de silence en Suisse à 14h en hommage aux victimes de l'incendie de Grand Montana la nuit du Nouvel An. Les cloches des églises retentiront ensuite dans tout le pays. Cérémonie qui aura lieu dans la station de ski du canton du Valais. Emmanuel Macron sera sur place. Au total, 40 personnes ont été tuées, dont 9 Français. 25 Français figurent également parmi les blessés. Une première pour la Station Spatiale Internationale. Les 4 membres d'un équipage de l'ISS vont être évacués pour raisons médicales dans les prochains jours, selon la NASA. C'est un des astronautes qui est touché par un problème de santé. Il se trouve pour l'instant dans un état stable.
France Info.
La libération par la Russie du chercheur français Laurent Vinatier, de retour en France hier après 588 jours de détention, c'est évidemment un immense soulagement pour tous les membres de son comité de soutien, comme le chercheur en géopolitique Fabrice Balanche.
Oui, c'est un soulagement, bien sûr, parce qu'on avait très peur qu'il reste plusieurs années en prison et qu'il serve de monnaie d'échange en tant qu'otage. La Russie, tout comme l'Iran, pratique cette diplomatie des otages et puis jette son dévolu, évidemment, sur des personnes comme Laurent Vinatier, qui sont des chercheurs, qui sont donc moins protégés, évidemment, que d'autres ressortissants, comme les diplomates, qui sont protégés par leur statut. C'est tout le problème des chercheurs de terrain qui ont besoin, pour comprendre le pays, de passer plusieurs années sur place. Et puis, dans des régimes autoritaires, on est vite considéré comme des espions. Et le moindre prétexte est bon pour vous mettre sous les verrous.
On savait que des négociations étaient en cours. Vous aviez retrouvé espoir ces dernières semaines aussi de le voir libre.
Oui, parce que bon, Poutine avait fait cette déclaration, donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Bon, voilà, il a fallu évidemment donner quelque chose en échange. Hein. C'est la diplomatie des otages. Donc, on avait quand même espoir qu'il soit libéré bientôt.
Vous êtes membre de son comité de soutien. Pourquoi avez-vous choisi de vous investir de cette manière-là auprès de lui ?
Parce que justement, c'est le symbole de ces chercheurs qui font du terrain, qui prennent des risques, qui sont insuffisamment couverts justement par le Quai d'Orsay, parce qu'il faut savoir que bien souvent, le ministère des Affaires étrangères décourage les chercheurs d'aller sur le terrain. En gros, aujourd'hui, on ne peut plus travailler sur l'Afrique sahélienne, on ne peut plus travailler sur le Moyen-Orient, parce que c'est des pays considérés à risque par les affaires étrangères. Et donc, ça limite évidemment le champ d'action des chercheurs. Et si on veut continuer à faire notre travail de façon honnête, il faut aller sur le terrain, il faut prendre des risques. Mais c'est un minimum quand même que le ministère des Affaires étrangères, justement, nous supporte, nous protège, parce qu'on fait un travail de recherche.
Le chercheur en géopolitique Fabrice Balanche, membre du comité de soutien de Laurent Vinatier, libéré hier par la Russie. Il répondait sur France Info à Benjamin Recouvreur. À 5h24, le monde d'Élodie avec Élodie Suigo qui reçoit ce matin l'actrice Mayanne et sa mère.
Bonjour Mayanne.
Bonjour.
Bonjour Sandrine Devenon.
Bonjour.
Vous êtes la mère et la fille. Mayanne, tu es cette actrice lumineuse que beaucoup de Français ont découvert dans le film Un petit truc en plus d'Artus qui a battu tous les records et dont personne ne voulait au départ car elle traitait du handicap et de la différence. Ton nom est aussi associé à une émission qui s'appelle Danse avec les stars à laquelle tu as participé, dans laquelle tu as été l'une des favorites du public et du jury pendant 10 semaines avec le beau, le très beau Christophe Licata, avec ce sourire permanent que tu abordes et qui transpire la joie de vivre. Sandrine, vous êtes la maman de cette petite boule d'énergie communicative, née porteuse de trisomie 21 en septembre 2004, un diagnostic qui vous a fait chavirer au départ. Vous avouez avoir été tout d'abord terrassée et anéantie par les commentaires des médecins avant de balayer cette annonce d'un revers de main avec la complicité de votre mari, donc de ton papa, Mayanne, malheureusement décédé en 2016. Ensemble, Mayanne et Sandrine, vous sortez un livre qui s'intitule « De l'ombre à la lumière ». C'est sorti chez HarperCollins. Comment il est né, ce livre ?
Moi, j'avais écrit pendant le Covid déjà tout son parcours parce que je pensais que c'était important. Pour elle, déjà, moi, c'est pour lui laisser une trace. Et là, je me suis dit, maintenant, il faut peut-être en parler pour essayer de changer le regard des gens et aider les personnes aussi.
Il représente quoi, ce livre, pour toi, Mayanne ?
Tu es contente, tu es fière, je crois.
Ouais, je suis très fière.
Tu es très fière de ce livre ?
Oui, je suis très fière de ce livre.
Sandrine, ce livre s'ouvre avec deux mots, un écrit par Mayanne et le deuxième par vous-même. Ils sont destinés au père de Mayanne. Il a disparu brutalement en 2016. Il a été de tous vos combats et il est tombé amoureux immédiatement de cette petite. Je voudrais que vous me racontiez ce moment-là.
Ah oui, oui, non. Mayanne, pour lui, c'était Mayanne, quoi. Il l'a adorée tout de suite. Il s'est mis contre les médecins directs en faisant montrer des photos de son père qui avait les yeux en amande, en disant « il est trisomique, lui ». J'ai aussi fait un peu pour lui le livre parce qu'il a toujours dit « quand elle aura 20 ans, je vais la ramener, je vais leur faire voir que tout ce qu'ils ont dit, c'est faux ». Et comme il ne peut pas ramener Mayanne à l'hôpital pour ses 20 ans, moi, j'ai fait le livre en son honneur, en fait.
Est-ce que vous pourriez me parler de l'administration française ?
Ah oui.
Ce serait important de le souligner, ça, parce que vous prenez le temps, d'ailleurs, de le faire. Quand, par exemple, Mayanne était en maternelle, tous ses maîtres et maîtresses étaient unanimes sur l'envie de l'envoyer en CP. C'est l'administration française qui s'y est opposée parce qu'elle faisait partie, elle était dans une case.
Voilà. Mayanne, elle a toujours été dans une case, elle est trisomique, elle ne va pas aller en CP. Donc ils nous ont dit non, ils voulaient la mettre en ULIS, dans une classe spécialisée. Alors moi, j'ai dit que l'entourage voulait, c'est-à-dire l'orthophoniste, la maîtresse, la directrice. Mais s'ils n'avaient pas voulu, je l'aurais mis en ULIS. Moi, j'avais pas de souci avec ça. Mais là, elle suivait, donc on a dû faire appel. Après, ils ont accepté, mais ils m'ont rebloqué en CE1 en disant que les trisomiques n'allaient pas en phase 3, enfin, de l'école, quoi. Donc, j'ai dû repartir. Mais là, on n'a pas été jusqu'à la conciliation. Là, ils ont vu que je ferais pas de cadeau. Donc, elle est passée jusqu'en CM2.
Mayanne, l'école, c'était bien ?
Oui, j'aimais bien l'école. J'aimais bien apprendre.
Et être avec tes copains et tes copines aussi ?
Oui.
Est-ce que c'est pas la liberté qui lui a toujours permis d'avancer aussi ?
Oui,
la liberté que vous lui avez offerte avec son père.
Ah bah oui, parce qu'il y a des choses, par exemple, là, qu'elle fait. Par exemple, elle a fait le saut de l'ange dans Fort Boyard, je l'aurais pas laissé. Mais c'est parce qu'elle voulait le faire, donc je l'ai laissé. Voilà, je lui laisse la liberté, même si moi, ça me convient pas trop, mais...
C'est important que tu restes en vie quand même, Mayanne. Bah, oui, si tu pouvais rester en vie, je pense que ce serait...
Je vais bien.
Est-ce que tu as des peurs ?
Non, j'ai jamais eu de peur. Juste du noir, mais c'est tout. J'ai peur du noir, parce que je préfère laisser une lumière à côté.
Je voudrais qu'on parle de ce moment, Mayanne, où une réalisatrice prend contact avec ta maman via Instagram, et où elle dit que tu es née pour être artiste. Tout de suite, maman te demande si tu veux te voir artiste, et tu réponds « oui, je veux être artiste ». Tu voulais être actrice ?
Ah oui, je voulais être actrice quand je voulais faire mon premier rôle.
Et un jour, tu rencontres Artus, Mayanne.
Oui.
Comment ça s'est passé ?
J'avais fait « Veuillez nous en excuser pour la gêne occasionnée ». J'ai rencontré Artus là-bas et il était adorable.
Il t'a tout de suite...
Et après, on a fait un visio et après, il m'a dit « Je sais ce que tu vaux, du coup, je te prends direct ». Et voilà.
Je voudrais qu'on parle de Danse avec les stars.
Ça me va.
C'était un rêve ?
Oui, c'était un rêve.
T'es resté 10 semaines quand même avec Christophe Licata.
Oui.
Tu as vu que le public t'aimait, qu'il te soutenait, qu'il votait pour toi. Comment tu percevais justement ce qui se passait autour ?
J'étais trop contente.
Parce que Sandrine, ça a été un pari, justement, de montrer la différence comme ça dans une émission aussi importante.
Oui, c'était pas évident. C'est vrai que moi, Danse avec les stars, elle a dit tout de suite oui. Moi, après, quand je regardais les anciens, ça me faisait un peu peur, parce qu'elle avait jamais fait de danse en couple. Après, moi, je sais que quand elle veut faire quelque chose, elle y arrive.
Oui.
Donc moi, je lui fais toujours confiance quand elle veut faire quelque chose.
Merci, Mayanne, d'être venue dans le monde d'Élodie sur France Info. Tu vas continuer à danser ?
Ouais.
Avec Christophe ou avec d'autres ?
Je préfère rester avec Christophe.
Ah, bon, on a bien compris. Merci en tout cas d'être passée dans le monde, Élodie. Sandrine également. De l'ombre à la lumière, c'est le titre de cet ouvrage que vous avez écrit ensemble, qui permet de parler de la différence et à quel point c'est important de maintenir cette différence. Merci beaucoup.
Le monde d'Élodie avec Élodie Suigo à retrouver sur franceinfo.fr.
France Info Météo avec Verisure. En 2026, priorité à votre sécurité. Faites confiance à Verisure, alarme télésurveillée numéro 1 en France. Devis gratuit sur verisure.fr.
Et avant le journal à 5h30, d'abord la météo avec Christine Peña. Ça souffle fort, Christine, cette nuit, mais le vent va faiblir progressivement.
Il va faiblir. Un point sur cette tempête, effectivement. Le plus gros de l'événement est passé à l'ouest, hein, Bretagne, Pays de la Loire, ça y est. On aura un changement de vigilance d'ailleurs à 6h. Hein. Ils vont sortir de vigilance orange pour le nord-ouest du pays. En revanche, nous sommes au cœur de l'événement entre Paris et les Hauts-de-France. Là, ça va rester en vigilance orange. La tempête s'éloigne progressivement vers la Belgique. On va rester dans une ambiance très venteuse de toute façon. Toute la journée, on a quatre choses rapidement à surveiller. On surveille les pluies au nord de la Seine, le quart sud-ouest qui pourrait y avoir encore des averses orageuses autour du Bordelais notamment. On surveille la neige entre le Jura, les Alpes. La neige va tomber en quantité et la limite pluie-neige d'ailleurs va s'abaisser en cours de journée. Donc il faudra être prudent. On surveille aussi le risque d'avalanche. Hein. Et puis dernière chose, le vent particulièrement entre là le sud-ouest, entre les côtes aquitaines d'ailleurs et l'Occitanie, les rafales vont dépasser les 120 km/h. Donc attention, le redoux, il est vraiment notable, surtout ce matin. On n'a pas de gelée du tout. On a des températures qui sont comprises entre 6 et 8 degrés de façon assez générale.
Christine Peña, vous écoutez France Info. Il est 5h30.
France Info. Jean-Christophe Martin.
Plus de 200 km/h de rafales enregistrées cette nuit dans le département de la Manche. Le pic de la tempête Goretti est passé dans ce département qui est d'ailleurs sorti de la vigilance rouge cette nuit. Mais la tempête continue de balayer la France sur le quart nord-ouest. Mélodie Pépin, vous suivez les dernières informations. Des milliers de foyers privés de courant.
50 000 foyers sans électricité dès 22h hier soir, essentiellement en Bretagne, dans les Pays de la Loire, en Normandie. La tempête Goretti qui a mis à terre une ligne de 20 000 volts. Par exemple dans le Calvados, à Ranville. L'axe est coupé, bien évidemment. Dans la Manche, ce sont les chutes d'arbres qui entraînent la fermeture de la RN13 entre Cherbourg et Valognes ce matin. Département où il a soufflé le plus fort, puisqu'on a enregistré des rafales à 213 km/h à Granville, 182 km/h à Barneville. Pour l'instant, aucun blessé. Les pompiers sont intervenus surtout pour des inondations de caves, des chutes d'arbres, mais appellent à la plus grande prudence. Toujours prière de rester à l'abri, de s'éloigner des côtes avec également cette vigilance pour vagues submersion. On attend des vagues de 10 mètres. Par précaution, les poids lourds ont interdiction de circuler dans la Manche. On rappelle que les écoles, collèges, lycées sont fermés dans ce département, y compris en Seine-Maritime, où on a enregistré des rafales à 157 km/h du côté de Fécamp. Les trains ne circule pas en Normandie. Beaucoup de perturbations à prévoir également sur le réseau SNCF et TER en Bretagne, dans les Hauts-de-France et en Île-de-France également, où on est en plein pic de la tempête en ce moment.
Mélodie Pépin, le chercheur français Laurent Vinatier, emprisonné en Russie depuis juin 2024, est rentré à Paris après avoir été libéré hier. Un échange avec la libération et le retour en Russie du basketteur Daniil Kazatkine, qui était réclamé par la justice américaine pour cybercriminalité. En décembre, le Kremlin avait déjà fait savoir que Vladimir Poutine était prêt à parler à Emmanuel Macron, répondant à des déclarations dans le même sens du président français. L'heure du recueillement en Suisse, après le drame du Nouvel An, un hommage rendu dans tout le pays aujourd'hui aux 40 morts, dont 9 Français et 119 blessés de l'incendie d'un bar la nuit du Nouvel An dans la station alpine de Cran, Montana. Journée qui sera marquée aussi par la nouvelle audition par la justice suisse du couple de Français qui gérait le bar incendié. Plusieurs avocats de victimes sont évidemment très attentifs avant cette audition, même si les faits eux-mêmes ne seront pas abordés sur le fond. Margot Steve.
Oui, c'est ce que précise la convocation qui leur a été envoyée, indiquent plusieurs sources à France Info. Lors de cette audition, il ne sera donc pas question des normes de sécurité appliquées dans le bar, ni de ces mousses anti-bruit soupçonnées de s'être embrasées à toute vitesse au contact de bougies étincelles. elle. Non, l'audition d'aujourd'hui ne portera que sur la situation personnelle des deux gérants français. Eux qui avaient déjà été entendus en tant que simples témoins le seront cette fois en tant que mis en cause, accusés d'homicide, lésions corporelles et incendie par négligence. Des patrons qui avaient assuré dans un communiqué leur volonté de collaborer pleinement avec la justice sans se dérober. Les avocats des familles de victimes attendent eux des réponses et de premières sanctions. Nous espérons, dit l'un d'entre eux, que la justice saisisse les biens du couple, propriétaire du Constellation, mais aussi d'au moins deux autres établissements dans le canton du Valais.
Margot Steve, c'est une première dans l'espace. La NASA annonce que les quatre membres d'un équipage de la Station Spatiale Internationale seront évacués dans quelques jours en raison d'un problème de santé touchant un astronaute. Selon le médecin-chef de la NASA, c'est un risque persistant. Et l'incertitude du diagnostic qui ont motivé la décision de ramener l'équipage au plus tôt, un équipage composé de deux Américains, un Japonais et un Russe. Vous écoutez France Info, il est 5h34.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
Le téléphone portable sera interdit au lycée dès la rentrée prochaine, mesure pour lutter, selon le ministre de l'Éducation nationale, contre l'addiction aux écrans. Édouard Geffray, invité hier de France Info, a aussi précisé les mesures d'aide aux collégiens les plus en difficulté en français et en mathématiques, des mesures qui devraient concerner quelques 800 établissements en France. Édouard Geffray.
Aujourd'hui, on a des comportements qui sont des comportements en fait addictifs. Il y a des enjeux de santé publique que tout le monde connaît. Il y a des enjeux sociaux. Quand vous allez à un intercours entre deux cours dans une salle de classe, les trois quarts des jeunes sont vissés à leur téléphone portable.
Ils ne se parlent plus.
Par téléphone, sur leur réseau. Vous avez des enjeux intellectuels en termes de concentration. Et puis vous avez un enjeu civique, c'est que nos jeunes sont bombardés de contenu dans tous les sens et qu'en réalité, sans avoir finalement développé leur capacité de discernement avant d'avoir été confrontés au contenu. Donc effectivement, le temps de l'école, c'est pas le temps du téléphone. Le temps de l'apprentissage, c'est pas le temps du portable.
Quelle forme prendra, vous, cette interdiction? Qu'est-ce que vous prévoyez dès la rentrée prochaine pour interdire le portable aux lycéennes ou lycéens?
Alors d'abord, la règle, c'est que c'est une interdiction. En cas de non-respect, si un adulte voit un lycéen utiliser un téléphone dans un cadre qui n'est pas autorisé, il pourra récupérer le téléphone, confisquer le téléphone.
Même entre deux cours dans le couloir, donc?
Bah oui, oui. Effectivement, s'il n'y a pas lieu d'être, on confisque le téléphone et puis on le rend le soir, soit à l'élève, soit à ses représentants légaux. Ce qui compte, c'est qu'au bout d'un moment, nos lycéens sachent que, une fois encore, dans l'établissement, il n'y a pas de place pour le téléphone.
Et quelle sera la sanction? Est-ce que c'est à discrétion de chacun des établissements, en fonction du règlement intérieur, ou est-ce que vous donnez des préconisations, je ne sais pas, confiscation, heure de colle, mots aux parents?
Non, la règle, elle est toujours la même, c'est la confiscation du téléphone avec restitution, soit à l'élève, soit en cas de réitération aux parents. Tout ça est déjà écrit, ça existe pour le collège, on le transpose au lycée.
Alors, il faut quand même expliquer d'un mot ce que ça change avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le portable est interdit en cours.
Alors aujourd'hui, il est interdit en cours. Aujourd'hui, en fait, les règlements intérieurs le prévoient en règle générale. Le portable est théoriquement interdit en cours. Il n'est pas forcément du tout interdit pendant les intercours. Donc, il est pas interdit dans la salle de classe. Il n'est pas interdit, évidemment, dans la cour, dans le hall, etc., etc. Donc, en fait, quand vous entrez dans un établissement, le portable est très répandu. C'est juste pendant les cours qu'il n'est pas, on espère en tout cas, utilisé.
Et vous ne craignez pas, avec cette règle dès la rentrée prochaine, une ruée vers la sortie devant les grilles du lycée? Tout le monde va prendre son téléphone dans les pauses, sortir. Ça va créer des attroupements. Ça va faire des mouvements dans le lycée, ça va être assez étrange.
Alors, il y a des endroits où ça existe déjà. Il y a pas mal de lycées qui ont mis en place, dans leur règlement intérieur, des restrictions comparables à celles qu'on souhaite mettre en place. Il n'y a pas eu ces phénomènes. D'accord. Ils vous disent tous, les chefs d'établissement, que ça a changé le climat scolaire. Ça a changé le climat en classe, ça a changé la sociabilité des élèves.
On va y revenir. L'application, justement, je le disais, c'est là-dessus que les syndicats ne sont pas d'accord avec vous. Écoutez, Jérôme Fournier, secrétaire national du syndicat SE UNSA.
Les internes, il faudra bien leur permettre de l'utiliser. Donc, il va falloir écrire dans le règlement intérieur à quelle heure, dans quel cadre, à quel endroit ils auront une dérogation. Quand les élèves utilisent leur téléphone pour badger à la cantine ou pour emprunter un livre au CDI, il faudra aussi écrire dans les règlements intérieurs. Donc en fait, alors que c'est déjà possible d'interdire les téléphones portables au lycée quand on veut et là où on veut, on est en train de faire une usine à gaz, comme d'habitude à l'Éducation nationale, où on va devoir, dans les règlements intérieurs des lycées, écrire une page, deux pages, trois pages de dérogation à une interdiction. Donc, en fin de compte, on crée quelque chose qui désorganise les établissements, alors que jusque-là, ils avaient tout à fait la possibilité d'interdire les téléphones portables en fonction de leurs besoins.
Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, justement, vous n'allez pas créer plein de problèmes aux établissements pour pas grand-chose, là?
Alors, d'abord, il y a une question qui est la dymension, j'allais dire, symbolique du droit. Il y a un moment où le portable, il est par principe interdit. Première chose. La deuxième chose, c'est que les hypothèses qui sont évoquées par M. Fournier, que je connais bien par ailleurs pour discuter souvent avec lui, ces hypothèses existent déjà. Moi, il y a 3 semaines, j'ai passé une nuit dans un internat. Ben, il y avait des règles très précises. Les élèves avaient le droit à leur téléphone de 19h à 21h. À 21h, tout le monde éteignait, rangé dans une phone box et c'était fini. Donc il y a des règles qui existent. Alors effectivement, elles seront précisées dans le règlement intérieur, typiquement la cantine, etc. Mais enfin, c'est 2 lignes.
Et là, d'un mot, c'est important pour la mise en application. Il n'est pas question justement de faire comme ce qu'on voit au collège, par exemple, depuis la rentrée dernière partout, les casiers, les pochettes. Pour les lycéens, c'est vraiment un appel à la responsabilité. Juste, on ne l'utilise pas. On le garde dans la poche, mais on ne l'utilise pas.
Oui, après ça,
c'est... On l'éteint.
On l'éteint, tant qu'à faire. Mais si les régions veulent mettre ensuite en place des casiers, etc., elles le peuvent. Mais on ne va pas imposer partout des casiers. Il y a un principe de responsabilité. Une fois encore, quand on l'explique et quand on voit l'enjeu de santé publique qu'il y a, enfin, j'insiste là-dessus, il y a un enjeu de santé publique pour nos jeunes. Pour nos jeunes, pour leurs parents, etc. La règle, c'est la règle. On éteint son portable quand on va au lycée.
Alors justement, quelle efficacité d'une telle mesure? Ça a déjà été mis en place dans d'autres pays. Armel Balogog s'est penché là-dessus pour France Info.
Plusieurs études ont été conduites dans les pays où le téléphone portable est interdit, soit dans tous les établissements du secondaire, soit dans certains collèges et lycées, et leurs conclusions diffèrent. Certaines concluent que sans téléphone, les journées se passent mieux, que les élèves se concentrent davantage, mais d'autres estiment au contraire qu'il n'y a pas de bénéfice réel. C'est le cas d'une étude suédoise datant de 2020, d'une australienne datant de 2024, ou encore d'une large étude britannique publiée l'an dernier. 1200 élèves du secondaire scolarisés dans 30 établissements anglais ont été interrogés. L'étude montre que l'interdiction des téléphones portables n'a amélioré ni leur concentration, ni leurs notes, ni leur bien-être. Les chercheurs concluent que pour avoir un impact réel, il faut aussi mieux accompagner ou encadrer l'usage des téléphones portables à la maison.
Et c'est ce que vous demandent, ça, les syndicats d'enseignants, ils vous disent qu'il faut faire de la pédagogie pour que ces téléphones soient mieux utilisés, ça ne sert à rien de les interdire. Est-ce que vous allez mettre l'accent aussi là-dessus, sur la pédagogie, bien utiliser son téléphone?
Évidemment, et le seul point sur lequel on diffère en termes de conclusion, c'est que ça ne sert à rien de les interdire. Il y a 2 choses, il faut limiter l'exposition aux écrans, ça passe par interdiction au lycée. Parce qu'il y a une dimension aussi de standard commun. Il y a des parents qui nous disent, mais interdisez-le au lycée, ce sera plus facile pour moi à la maison. C'est ça que nous disent les parents aujourd'hui. Et à côté, il faut éduquer. Parce que si effectivement on n'éduque pas au bon usage des écrans, là je vous rejoins, ça ne sert à rien d'interdire tout court.
Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, demain vous allez nous en dire plus sur un autre plan qui vous tient à cœur, l'une de vos priorités depuis votre arrivée en poste, pour les 800 collèges les plus en difficulté, ceux qui concentrent en fait les difficultés scolaires, les collèges où au moins 4 élèves sur 10 ont moins de 8 sur 20 en français et en maths au brevet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous allez redessiner les zones d'éducation prioritaire?
Non, pas les zones d'éducation prioritaire, parce que ça ne se superpose pas. L'éducation prioritaire traite la très grande difficulté sociale, dont on sait qu'elle peut avoir des effets évidemment importants sur la réussite scolaire. Là, la situation, c'est la suivante. On a aujourd'hui à peu près 15% des collèges, donc 800, comme vous l'avez dit, plus de 40% des élèves ont moins de 8 sur 20 en français et en mathématiques au brevet, ce qui témoigne d'une très grande fragilité de leur niveau. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on s'attaque à cette très grande difficulté scolaire, parce que j'admets pas qu'on ait une chance qui varie du simple au double d'avoir le brevet en fonction de son établissement et avec toutes les conséquences qu'on connaît ensuite sur la suite du parcours. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'effectivement, on se mobilise collectivement, donc au niveau des équipes, et on part du terrain pour identifier les différents leviers qui peuvent être actionnés à l'établissement, le levier pédagogique, le levier social, il y a des fonds sociaux, par exemple, quand les jeunes sont entrés en difficulté, le levier éventuellement médical, quand on a des jeunes qui sont dans des situations de santé psychique, par exemple, fragiles, etc. Bref, on fait un portrait de l'établissement. Et chaque établissement concerné a une situation qui lui est propre. On regarde quels sont les leviers, et ensuite, on active tous les leviers pédagogiques et autres pour qu'à la rentrée, il se passe quelque chose et que nos élèves réussissent mieux.
Est-ce qu'avec cette mesure, vous allez enterrer définitivement les groupes de besoins, cher à Gabriel Attal, instaurés en 2024? Vous avez déjà laissé penser qu'ils allaient devenir facultatifs. Là, vous nous dites, finalement, c'est une approche différente qui arrive, établissement par établissement, et pas pour tous les élèves au sein des établissements.
En fait, c'est pas différent. C'est assez cohérent, ça se superpose. Les groupes de besoins, il y a des endroits où ils ont bien marché. Des endroits où, objectivement, ça marche. Et moi, j'ai des professeurs qui me disent, chez nous, ça a bien marché.
Il y a
des
endroits où ça marche pas. Et pour continuer à y avoir recours.
Exactement. Ceux qui veulent y avoir recours, parce qu'ils constatent que chez eux, ça a produit des résultats, ils le gardent. Ceux qui n'ont pas envie de le faire, ils feront d'autres organisations pédagogiques. À la fin, vous savez, moi, la seule chose que je veux, et comme tous les professeurs de ce pays que je remercie, c'est que nos élèves, simplement, ils réussissent.
Où en sommes-nous de la possibilité de passer les concours pour devenir enseignant à Bac plus 3 et non plus à Bac plus 5, comme c'est le cas aujourd'hui? L'idée, c'est d'avoir plus de candidats quand même, parce qu'il y a un manque chronique d'enseignants. On a beaucoup recours aux contractuels. Les concours sont début mars. Ça arrive très vite. Et sauf erreur de ma part, j'ai toujours rien vu passer d'officiel à ce niveau-là. C'est attendu par des milliers de Français.
J'ai 80 000 étudiants qui sont inscrits au concours de L3. Aujourd'hui, on a une difficulté que tout le monde a en tête, c'est qu'on n'a pas de loi de finances qui a été adoptée. Et que comme c'est un nouveau concours et qu'on crée 8 000 postes pour embaucher ces jeunes, tant que je n'ai pas de loi de finances votée, je ne peux pas recruter ces 8 000 personnes. Et effectivement, aujourd'hui, la question qu'on a, c'est celle simplement de l'autorisation que nous donne le Parlement, par la loi, à organiser ces concours. Aujourd'hui, je ne l'ai pas, parce que le budget n'est pas encore voté, mais on fait tout pour, comme vous le savez.
Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, il répondait sur France Info à Jules de Kiss.
Vous voulez courir le Schneider Electric Marathon de Paris le 12 avril prochain ? Dernière chance pour participer à l'épreuve en partenariat avec France Info. Défendez une cause qui vous tient à cœur et réservez un dossard associatif. Transformez votre défi personnel en un acte solidaire et collectez des dons pour l'association de votre choix. France Info, partenaire du Schneider Electric Marathon de Paris, dimanche 12 avril 2026. France Info. 5h-6h.
L'essentiel de l'actualité à 6h moins le quart sur France Info. C'est avec Diane Ferchit, le premier titre Diane, l'hommage aux victimes de l'incendie de Crans Montana aujourd'hui.
Cérémonie à partir de 14h dans la station de ski suisse. Emmanuel Macron sera présent alors que le bilan des Français blessés s'alourdit à 25. 9 Français sont morts dans l'incendie de la boîte de nuit dans la nuit du Nouvel An. Au total, 40 personnes ont été tuées. Une minute de silence sera observée dans toute la Suisse où les cloches des églises vont ensuite retentir. Des chutes d'arbres, des routes coupées avec le passage de la tempête Goretti. 33 départements sont en vigilance orange au vent violent, du nord à la Charente-Maritime, ainsi que les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. La Manche est repassée en orange cette nuit après avoir été placée en vigilance rouge. Au moins 4 morts à Kiev au cours de la nuit dans d'importants bombardements russes. Les autorités évoquent également une frappe de missiles à vitesse hypersonique dans l'ouest du pays. Les tensions avec les forces de l'ordre aux États-Unis. 2 personnes ont été blessées par balle à Portland dans l'Oregon par des tirs de policiers fédéraux 24 heures après la mort d'une femme à Minneapolis dans le Minnesota. Abattue par la police de l'immigration, des manifestations sur place ont rassemblé des milliers de personnes.
France Info.
Après la capture du président Nicolas Maduro au Venezuela samedi dernier par les forces américaines, France Info a sondé les électeurs de Donald Trump et c'est ce matin le choix de France Info. La base des électeurs de Donald Trump, la base MAGA, est très présente dans l'État républicain de Floride où Sandrine Etoy-Andegue est pour France Info à Miami. Alors Sandrine, est-ce que les supporters du président américain que vous avez rencontrés approuvent ou pas son action au Venezuela ?
C'est d'abord à Palm Beach, connu pour ses somptueuses villas de milliardaires, que je me suis rendue. C'est là que se trouve Mar-a-Lago, la célèbre résidence de Donald Trump, depuis laquelle d'ailleurs il a dirigé la capture de Nicolas Maduro au Venezuela dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Direction la plage municipale où travaillent Josh et Cade, deux sauveteurs dans la vingtaine. Oui, j'ai voté pour Donald Trump aux dernières élections. L'intervention américaine au Venezuela, Josh l'a résume ainsi. Le président Maduro, c'était vraiment un sale type, un trafiquant de drogue de ce que j'ai compris. On l'a dégagé et les Vénézuéliens, eux aussi, sont très contents de ça. Cade poursuit. Maintenant, je ne dirais pas que débarquer dans le pays et tout chambouler comme ça, c'était la meilleure idée. Mais si des Américains meurent à cause de la drogue, que des gens indésirables viennent s'installer chez nous, alors c'était peut-être une bonne chose d'y aller pour essayer de régler tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais Josh raconte aussi que le Venezuela, c'est loin, très loin de ses préoccupations quotidiennes. Trump devrait aider les Américains, c'est pour ça que j'ai voté pour lui. Malheureusement, actuellement, il se concentre surtout sur les affaires internationales. S'immiscer dans les affaires des autres pays, ça peut devenir une menace pour nous. C'est comme si nos impôts servaient à régler les problèmes du monde, c'est idiot. Ma mère, par exemple, est enseignante, elle travaille énormément, et je pense que les gens comme elle devraient être mieux payés. Après un temps d'hésitation, il ajoute... J'espère que ce n'est pas controversé de dire ça, je suis partagé, mais je soutiens toujours Trump. Le monde entier a vu à quel point il était solide, il fait de son mieux. C'est le meilleur, assure Liz Crokin, qui promène son chien au bord de l'eau. Oh oui, je le connais et je le suis depuis des années. Je lui fais confiance malgré tous les mensonges que les médias racontent sur lui. Une rencontre improbable. Aux États-Unis, cette chroniqueuse est une figure du mouvement conspirationniste d'extrême droite QAnon, un temps banni des réseaux sociaux pour ses campagnes de désinformation. Elle approuve à 100% l'action de l'administration Trump au Venezuela. Beaucoup de nos problèmes ici, c'est à cause du Venezuela. Toutes ces racailles, ces trafiquants de drogue, violeurs, pédophiles, proxénètes qui ont débarqué ici pour commettre des crimes et nous nuire. Et cette opération, beaucoup de gens la soutiennent. Et c'est ça, mettre l'Amérique d'abord. Selon un sondage de CBS News, 74% des électeurs républicains soutiennent l'action de Donald Trump, comme Jim, un retraité. Au Venezuela, c'était une action limitée qui n'entraînera pas d'escalade. Enfin, je l'espère. Même s'il avoue ne pas vraiment comprendre la situation politique incertaine dans le pays.
Alors Sandrine, la priorité affichée en tout cas par Donald Trump est économique, le contrôle du pétrole du Venezuela.
Oui, que Washington va commercialiser jusqu'à nouvel ordre selon le ministère américain de l'énergie. Et le sujet fait parler dans la commune de Doral, une banlieue de Miami avec une forte communauté hispanique. Félix, un auto-entrepreneur, est venu se restaurer dans une institution cubaine de la ville. Et ce fan de Donald Trump estime que la mainmise américaine sur l'or noir vénézuélien, c'est un juste retour des choses.
Oh, it's correct. They owe us.
Oui, c'est correct. Ils nous doivent de l'argent pour nous avoir expropriés. Ils nous ont volés. Ils ont une dette envers nous.
So they have a debt.
Une fois qu'ils l'auront honoré, ils feront ce qu'ils voudront.
They do whatever they want.
De table plus loin, Najib approuve.
I support Trump.
Je soutiens Trump. Il nous a débarrassé d'un dictateur. Sa méthode, c'est pas mon problème, pourvu qu'il pense d'abord à nos intérêts.
Et
lui, c'est le porte-parole de la Maison Blanche, plaisante sa voisine.
Karina.
Pour cette cubaine,
I think it's not correct.
Ce qui se passe là, ce n'est pas normal. On n'a pas le droit de s'ingérer ainsi dans les affaires d'un pays. Mais ce n'est que mon avis.
For me. It's for me.
Avis qui agace Neto et sa femme, d'autres Cubains qui soutiennent Trump. Le Venezuela est dans une pauvreté extrême alors qu'il a d'importantes ressources pétrolières. Les États-Unis vont essayer de faire en sorte que ça profite aussi à la population. Il répète, Donald Trump, c'est l'homme de la situation.
Un président, en tout cas, dont le Congrès veut contrôler l'action au Venezuela.
Oui, car la Maison-Blanche n'a pas exclu d'envoyer de nouvelles troupes sur le sol vénézuélien pour gérer ce dossier pétrolier. Et justement, hier, une résolution a été votée au Sénat, à majorité républicaine, pour limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump dans le pays. Et la motion est passée avec 52 voix pour, grâce aux voix de 5 sénateurs républicains. Un vote symbolique, mais un camouflet pour Donald Trump, qui a posté sur son réseau social qu'ils étaient stupides. Le texte sera soumis au vote du Congrès, où siège Carlos Jiménez, cet élu de Floride, et l'un des artisans de la chute de Maduro. On a la majorité, et toutes les voix de l'opposition, ces socialistes alignés, ont une posture idéologique. Ils sont malheureusement pour eux en minorité. Il estime que Donald Trump, qui fait tomber Maduro, restera un événement aussi historique que la chute du mur de Berlin.
Le choix de France Info, signé ce matin, Sandrine et toi, Andeg, à Miami, à retrouver sur franceinfo.fr. Tout de suite, à 6h10, le réveil de l'écho.
Le réveil de l'écho, avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et avec Emmanuel Cunier. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Toute l'actualité économique en trois titres. La discorde gagne l'industrie pharmaceutique en France.
Et oui, plusieurs grandes entreprises du secteur et des laboratoires décident de quitter le LEM, le principal syndicat patronal des industriels du médicament. Alors Sanofi, Servier, Pierre Fabre ou encore l'acteur majeur du secteur ophtalmique TEA annonce la création d'un nouveau syndicat qualifié de plus agile auprès des pouvoirs publics. Selon ses créateurs, la nouvelle structure d'influence, qui n'a pas encore de nom ni de statut, engagera un dialogue constructif avec les autorités françaises et européennes pour faire valoir l'innovation et la souveraineté sanitaire française. Fin de citation.
Le constructeur automobile chinois BYD passe un accord stratégique avec le producteur audiovisuel français MediaOne.
Oui, nouvelle initiative du groupe chinois pour élargir son influence en Europe. Le géant de la voiture électrique scelle une alliance avec le producteur, notamment des émissions C'est à vous, C'est dans l'air, mais aussi producteur cinématographique. L'objectif est de faire apparaître la marque BYD dans les nombreuses coproductions du catalogue MediaOne dirigé par l'homme d'affaires français Pierre-Antoine Capton.
Emmanuel Cugny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
Les placements en assurance vie ont battu un nouveau record en novembre. Le contexte économique et politique tendu pousse les Français à être prudents et à renforcer leur épargne, sur ce type de produit auquel s'intéresse, figurez-vous, l'État via la fiscalité. Un État en manque d'argent pour boucler le budget 2026.
Emmanuel Cugny, à tout à l'heure. Le Brief Éco, c'est dans une demi-heure à 6h23. Tout de suite, 5h53. C'est l'heure de la playlist du jour avec Diane Ferchit et ce matin, Diane, une double sortie artistique pour le rappeur Ninho.
El Refé, comme on le surnomme, sort aujourd'hui sa 6e mixtape MILS4. Ce format, la mixtape, est plus souple que l'album et c'est ce qui a fait le succès de Ninhos. Sa précédente date d'il y a 6 ans. Et pour accompagner ce nouvel opus, le rappeur aux 2,5 millions d'albums vendus voit les choses en grand avec un événement dans un lieu culturel parisien, le Grand Palais Immersif. Il y propose jusqu'à dimanche une exposition où le visiteur se retrouve littéralement plongé dans un parcours en images et en sons, entièrement à la gloire de Ninho.
Oh là là, je suis en mode avion, pays cache, on va se déplacer. Un peu de chance, c'est un don de Dieu, ils essayent mais ne peuvent pas remplacer. Aucune chance dans les équations, on fait le taf et les bons placements. Concentré loin des tentations, venir reprendre les diamants de Bokassa. Bloqué là, mais je me dois d'avancer. Je suis bloqué là, mais je peux plus reculer. Quand c'est chaud, ça veut plus rappeler. C'est toi qui dois, mais je dois te relancer. Le sang qui monte, je me suis alcoolisé.
Et Diane, ça n'est pas le premier rappeur. Ninho a accompagné un nouvel album d'un événement culturel.
Oui, en fin d'année dernière, le Marseillais Jul a lui accompagné son album TP sur TP d'un documentaire sur la genèse de ses nouvelles chansons. Pendant 46 minutes, on découvrait son processus créatif, ses doutes aussi. Autre exemple, Aurel San à l'affiche, lui, du film Yoroi, juste avant la sortie de son album La Fuite en avant. Des rappeurs qui veulent montrer qu'ils peuvent toucher à plusieurs domaines, une façon aussi pour Ninho de montrer que le rap a désormais toute sa place partout, après avoir rempli deux soirs de suite le Stade de France.
Si tu parles fort, sans que des baltringues déguisées. J'ai les chaussures qui piquent, j'arrive vers les Champs-Élysées. On peut t'enlever la vie pour sauver nos réputations. Évitons toutes les tentations, à l'heure qu'il est, je suis dans l'avion. On tire, laisse les plaintes, déjà j'arrive en tête du peloton. Je suis là que pour la plata. Ouais. Le lundi et le mardi, ouais. Le gérant se lève à 5h, ouais. En peur qu'on vienne l'éclater. Y'a rien de facile dans l'argent facile, The Pequeno me fascine. 357 Magnum, pas de grappling. Y'a la volaille qui applique, on s'échappe. Minuit pété sous champ, demain je serai aux Seychelles. Et pour avoir cette vie là, j'ai remonté les bretelles. Quand le rêve est trop long, le réveil est brutal. Black Panther, comme la dame.
Voilà, la vie qu'on mène, titre de l'album Destin, ça ne s'invente pas, Jean-Christophe, chanson qui a été certifiée single de diamant et qui est sortie il y a presque 7 ans maintenant. Elle figure parmi les titres les plus écoutés en français sur la plateforme Spotify.
Diane Ferchit avec Ninho, le réveil est brutal, disait le rappeur. C'est vrai que c'est brutal ce matin dans le nord de la France avec la tempête Goretti. La météo, c'est dans un instant.
Les éditions Radio France présentent
La lutte enchantée,
un livre de Cyril Dion.
Face au péril écologique, voici un manuel de résistance pour garder espoir et agir. Parce que les petits gestes ne suffisent pas. Que le système est pipé, et qu'ensemble, on peut encore changer les règles du jeu.
La lutte enchantée, de Cyril Dion, un livre France Inter. France Info Météo, avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin, grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Avant le journal à 7h dans 3 minutes, la météo sur France Info, c'est avec Christine Peña. Christine, après la neige, la tempête.
Ben voilà, alors un point sur cette tempête Goretti, effectivement, le plus gros de l'événement est passé à l'ouest, hein, Bretagne, Pays de la Loire. Le vent souffle hein, toujours, mais beaucoup moins fort. Elle est quasi historique quand même, hein, surtout sur le Cotentin. Les valeurs ont été vraiment extrêmes. En revanche, nous sommes au cœur de l'événement, là, sur Paris, les Hauts-de-France. La tempête s'éloigne progressivement, lentement, vers la Belgique. Et on va rester, mais alors tout le pays, hein, dans une ambiance très venteuse toute la journée. Alors, il n'y a pas que le vent, on a également la pluie qu'on surveille au nord de la Seine. Sur le quart sud-ouest, il pourrait y avoir des averses orageuses autour du Bordelais, vers la côte notamment. La neige également, on la surveille entre le Jura et les Alpes. La neige va tomber en quantité et la limite plus neige va s'abaisser en cours de journée. On surveille aussi le risque d'avalanche. Et puis dernière chose, le vent particulièrement fort entre les côtes à Aquitaine et l'Occitanie aussi, où là, on peut avoir des rafales à plus de 100 km/h. On a le redout, on le note, hein, surtout dans l'Est ce matin, on n'a pas de gelée, on est entre 6 et 8 degrés, alors qu'on avait du moins 10, moins 15, il y a deux jours. Changement de vigilance donc à 6 heures, mais ça, je vous le dirai tout à l'heure, ça va pas mal évoluer, puis ce week-end, eh bien, il reste mitigé ce week-end, on surveillera la neige, de nouveau sur l'Est du pays, les averses assez régulières sur le Sud-Ouest. Dimanche, nous aurons une petite accalmie, petite, hein, car on commencera à surveiller l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'Ouest qui pourrait dès le matin donner des phénomènes glissants sur les routes. Au niveau des températures, je peux vous le dire, journée, on aura jusqu'à 4 degrés à Lille, 5 à Reims, 7 du côté de Paris, de Dijon à Brest, 8 à Strasbourg, 9 à Rennes, à La Rochelle, à Montauban, un bon 10 degrés à Bordeaux, comme à Lyon, 12 à Marseille, 14 à Perpignan et à Toulon. Je crois que là, j'ai fait le tour.
Oui, complet. Merci Christine, Christine Peña pour la météo.
Vous n'êtes pas trop saoulée, ça va ?
Non, mais c'est très intéressant cette carte météo pleine de neige et de nuages et de vent. Merci Christine, vous écoutez France Info. Il est presque 7h, c'est l'heure d'Adrien Beck. Bonjour Adrien.
Même presque 6h, mon cher.
Oui, presque 6h. Bonjour à vous.
Ah, mais c'est moi, je l'ai perturbé.
Mais c'est parce qu'on vous retrouve à 7h, vous avez effectivement pris un petit peu d'avance. Ravi de vous retrouver, exactement, en ce vendredi matin, un peu venteux, voire très venteux, on l'a bien compris, avec Christine, et vous l'avez remarqué, si vous êtes dans la Manche, dans le Calvados, en Bretagne, et même d'ailleurs ces dernières heures en région parisienne, ça a soufflé, ça souffle encore. On va évidemment y revenir durant tout ce 6-9, parler de cette tempête Goretti, ce serait l'une des plus fortes depuis 30 ans du côté de la Normandie notamment. On est dans la Manche avec nos équipes sur place, nos spécialistes sont également mobilisés, je vous salue.